VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Nathalie Barge.
Bienvenue à l'édition du lundi 13 avril 2015. À la une ce soir.
Nigeria, le parti du nouveau président élu Muhammadu Buhari, remporte la majorité des États aux élections régionales, selon les résultats officiels publiés ce lundi.
L'Algérie a convoqué les parties maliennes pour de nouvelles discussions dans l'espoir de ramener la paix dans le nord du Mali.
Gabon, au lendemain des violences liées au décès du secrétaire exécutif de l'Union nationale, André Mbaobam, Zakaré Miboto nie l'implication de l'opposition.
Moi, je ne peux pas vous dire que c'est tel ou tel, parce que les gens, c'est des initiatives tout à fait privées qui ont été prises et pour lesquelles nous n'étions absolument au courant de rien du tout.
Zakaré Miboto, président de l'Union nationale au Gabon.
Ici aux États-Unis, la liste des candidats à la présidentielle s'allonge. Marco Rubio doit annoncer ce soir sa candidature. Hier, c'était le tour de l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton.
D'abord, il ne faut pas qu'elle soit le candidat de son mari, l'ancien président. Il faut qu'elle soit un président à elle.
Nous aurons l'analyse de l'ambassadeur Herman Cohen.
Et dans moins de 10 minutes, nos segments sur l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal.
Le congrès progressiste du nouveau président élu du Nigeria, Muhammadu Buhari, a remporté la majorité des États aux élections régionales selon les résultats officiels publiés ce lundi. Dans la matinée, l'APC contrôlait déjà au moins 21 sièges. Le Parti démocratique populaire du président sortant Goodluck Jonathan a concédé sa défaite, disant qu'il fallait à présent se repositionner pour constituer une opposition crédible.
Quelques 800 000 enfants ont été forcés de fuir leur foyer dans le nord du Nigeria à cause de la violence armée entre Boko Haram. Les groupes d'autodéfense et l'armée alertent l'UNICEF dans un nouveau rapport publié un an après l'enlèvement des écolières de Chibok. Intitulé « Enfance perdue », ce rapport révèle que le nombre d'enfants qui fuient le conflit à l'intérieur du pays ou qui traversent les frontières du Tchad, du Niger et du Cameroun a plus que doublé en un an. L'enlèvement de plus de 200 filles à Chibok n'est qu'un seul des événements tragiques qui se multiplient au Nigeria et dans la région, a déclaré Manuel Fontaine, directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. L'UNICEF rappelle qu'un grand nombre inconnu de filles et de garçons disparaît régulièrement au Nigeria. Ils sont enlevés, recrutés par des groupes armés qui les utilisent comme combattants ou contraints de fuir l'extrême violence dans ces zones quasiment inaccessibles par les organisations humanitaires.
En Guinée, dispersion musclée d'une manifestation de l'opposition. Des manifestants ont été blessés par balles lors de heurts avec la police à Conakry. On fait le point avec Idriss Fall.
L'opposition avait appelé à manifester contre l'insécurité après l'agression de son porte-parole le 4 avril à Conakry. Dans une déclaration signée le 24 mars à Paris, les opposants Sellou d'Alain Diallo, Sidi Touré et Lansana Kouyaté avaient aussi appelé à la reprise des manifs citoyennes pour dénoncer l'inversion du calendrier électoral. La commission électorale a fixé la présidentielle à octobre 2015 et à mars 2016, les locales qui n'ont jamais eu lieu depuis 10 ans. Et tôt ce matin, gendarmes et policiers ont été déployés dans les quartiers de Bambeto, autour de l'aéroport, à Hamdallaye et à Lambagné, dans la banlieue de Conakry. De violents affrontements ont suivi entre des jeunes et les forces de l'ordre à Hamdallaye. Un médecin de la clinique Jean-Paul II a affirmé à l'AFP qu'il y a eu au moins 3 blessés, dont un grièvement. Amadou Damaro Camara, président du groupe parlementaire de la majorité, accuse l'opposition de vouloir instaurer un climat d'instabilité dans le pays par des manifestations non autorisées.
Les Soudanais vont aux urnes depuis ce matin pour désigner leurs dirigeants à tous les niveaux. Des élections que le président Omar el-Béchir au pouvoir depuis 25 ans est assuré de remporter. Eddy Issango.
13,3 millions d'électeurs soudanais doivent théoriquement choisir entre M. Béchir et 15 autres concurrents. M. Béchir, qui a voté lundi, est assuré d'une victoire. Ces élections se déroulent sans l'opposition qui, de manière générale, les boycotte. Et c'est dans un contexte d'isolement sur la scène internationale que le pays va aux urnes. M. Béchir étant réclamé depuis 2009 par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité au Darfour. L'organisation de ces élections est en fait dénoncée par les États-Unis et l'Union européenne qui estime qu'elles ne peuvent donner un résultat crédible et légitime. Les dialogues sont contournés, certains groupes sont exclus et les droits civiques et politiques violés selon Bruxelles. Jeudi, Béchir, âgé de 71 ans et au pouvoir depuis 1989, a libéré deux opposants arrêtés en décembre. Une tentative visant, selon l'avocat des opposants, à alléger la pression internationale sur le régime accusé de chercher à étouffer toute voix dissidente.
Les États-Unis et l'Europe font pression sur les factions rivales en Libye pour un cessez-le-feu inconditionnel, alors que les pourparlers visant à la création d'un gouvernement d'union ont débuté en Algérie. Les précisions de Michel Joseph.
Nouvelle violence ce lundi à Tripoli où une bombe a explosé devant l'ambassade du Maroc sans faire de victimes. L'attentat est intervenu quelques heures après une attaque contre le complexe de l'ambassade sud-coréenne, tuant deux gardes libyens et blessant une troisième personne. Le groupe État islamique a revendiqué la responsabilité pour les deux attaques. Dans une déclaration commune dimanche, le secrétaire d'État américain John Kerry et les ministres des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne, France, Allemagne, Italie et Espagne ont appelé à l'arrêt immédiat des frappes aériennes et des combats terrestres en Libye, où des gouvernements divergents s'affrontent pour le pouvoir. Les pays occidentaux ont également souligné la menace grandissante du terrorisme en Libye.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Politique américaine au lendemain de la confirmation de sa candidature à la présidentielle de 2016. Hillary Clinton est en campagne dans l'Iowa, le premier État à voter lors des élections primaires. Ce premier déplacement officiel de campagne se fera sans grands discours ou grandes annonces. L'ex-sénatrice et secrétaire d'État a prévu une table ronde sur l'éducation et des réunions avec des familles. Question de se mettre à l'écoute de l'électorat, disent ses conseillers. D'autre part, le sénateur Marc Rubio de la Floride a confirmé sa candidature à l'investiture républicaine. Une annonce officielle est attendue dans les prochaines heures.
Le président russe Vladimir Poutine a levé l'interdiction de vente d'armes défensives perfectionnées à l'Iran à peine quelques jours après l'accord politique sur le nucléaire iranien. Moscou avait adopté cette mesure en septembre 2010, privant Téhéran de ses missiles sol-air S-300. Compte tenu des progrès dans les négociations entre l'Iran et les puissances mondiales, il n'y a plus de raison pour cette interdiction, a déclaré aujourd'hui le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov. Israël et les États-Unis ont critiqué la décision.
Les écoles de la partie rebelle d'Alep dans le nord de la Syrie seront fermées pendant au moins une semaine après un raid sanglant du régime syrien sur un établissement. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme et des militants, le bilan de cette attaque lancée hier est de 9 morts, dont 5 enfants. Deux quartiers rebelles ont de nouveau subi des raids ce matin. 7 personnes ont été tuées et de nombreux autres blessés, toujours selon l'OSDH. Alep est divisé entre un secteur contrôlé par le régime et un autre contrôlé par les rebelles.
Visite aux États-Unis du premier ministre irakien Haider al-Abadi, qui doit rencontrer Barack Obama demain à Washington, souhaite un soutien plus accru dans la campagne contre les djihadistes du groupe État islamique. Le patron du Pentagone, Ashton Carter, a promis que les autorités américaines prendront en considération toute requête du chef du gouvernement irakien. C'est sa première visite aux États-Unis en tant que premier ministre.
Fusillade dans une université de l'Est des États-Unis. Au moins une personne a été touchée par balle et un suspect est recherché, selon l'AFP. Le campus du Wayne Community College à Goldsboro, en Caroline du Nord, était bouclé dans la matinée après que des coups de feu ont été entendus dans la bibliothèque de l'établissement. Apprend-on de sources policières, il n'y aurait pas d'autres victimes. Et voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Et à présent, Un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco, présentée par Georges Ebion.
44 minibus ont été mis en circulation ce lundi dans la commune de Kaolack au centre du Sénégal dans le cadre du programme de renouvellement du parc de transport urbain. Les nouveaux bus vont assurer le transport à l'intérieur de la capitale régionale et ses environs dans le confort et la sécurité, selon un communiqué du conseil exécutif des transports urbains de Dakar. Le CETUD affirme que l'exploitation des 44 minibus va générer environ 200 emplois directs de chauffeurs, de guichetiers, de contrôleurs et d'autres postes. Clôture dimanche à Kinshasa du premier Forum national de développement de l'industrie et du redressement productif, la RDC, qui comptait 9500 industries en 1960, en compte moins de 300 en 2015. Pendant trois jours, des experts ont donc réfléchi à la relance de ce secteur. Les industries et petites et moyennes entreprises profitant de cette occasion ont exposé des produits 100% congolais. Une exposante attend beaucoup de l'implication du gouvernement de la RDC.
On veut bien que le gouvernement puisse nous aider, nous appuyer dans ce qu'on est en train de faire et de nous donner des machines pouvant nous aider à fabriquer tout ce qu'on est en train de faire. Comme à Kinshasa, déjà, le courant n'est pas stable. Des fois, on utilise des morceaux de bois pour pouvoir faire ça et tout. C'est pas facile pour nous. On attend au gouvernement de changer un peu nos conditions de travail.
Une exposante au premier Forum national du développement de l'industrie et du redressement productif au micro de nos confrères de Top Congo FM. Le ministre français des Finances, Michel Sapin, a exprimé ce lundi la volonté de Paris de renforcer et réorienter sa coopération économique avec le Maroc au profit des petites et moyennes entreprises. Deux accords d'un montant total de plus de 40 millions d'euros ont été signés en ce sens à l'issue d'un entretien avec le ministre marocain de l'économie, Mohamed Boussaïd.
C'était Jean-Roger Bion. Merci beaucoup pour la Minute Éco.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, c'est aussi les sports. Bagassi Koura, bonsoir.
Oui, bonsoir, Chérubin. Bonsoir à tous.
Retour sur les éliminatoires des Jeux africains qui se sont terminés ce week-end.
Eh bien, le quadruple vainqueur de ce tournoi, le Cameroun, éliminé par le Zimbabwe, ne sera pas donc de la fête au Congo. D'autres grands absents, le Mali, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, ont également perdu leur match. Le Burkina Faso, lui, s'est qualifié pour la phase finale en éliminant ce samedi les éléphants de Côte d'Ivoire. Score 0-0 au terme des 90 minutes dominées par les Ivoiriens sans trouver la faille dans la défense du Burkina. Il faut rappeler qu'à l'aller, le Burkina Faso l'avait emporté à domicile 2-1. On écoute la réaction de Brahma Traoré, il est l'entraîneur du Burkina Faso. Il parle de la qualification historique.
Bon, je pense qu'on s'attendait à cela parce que ce que nous avons vu à Ouagadougou, nous sommes tombés face à une équipe de la Côte d'Ivoire qui savait tenir le ballon. Et je pense que nous, en venant à Abidjan ici, on savait que le match allait être très difficile pour nous. Et Dieu merci, nous avons arraché la victoire. Et sinon, la qualification à Abidjan ici, et dit félicitations à mes joueurs.
Voilà, et quelqu'un qui est, lui, bien sûr, déçu, c'est Tchegbe Kone. Il est le sélectionneur des éléphants.
À la fin de l'effort, il y a des gestes techniques qui peuvent. Il y a les mauvais choix, il y a les mauvais choix techniques, tactiques, il y a aussi les ratés. Vous voyez, plus que le match était extrêmement intense, donc souvent les enfants, à la fin, manquent de lucidité. Mais il faut aussi reconnaître que nous n'avons pas de véritables attaquants. Voilà.
Voilà, ces propos ont été recueillis par Stéphane C. à Abidjan.
Et que pouvez-vous dire, Bagassi, à propos du championnat national de la Côte d'Ivoire?
Eh bien, la phase retour de ce championnat a commencé ce week-end avec la 14e journée. La SEC Mimosa prend provisoirement la tête du classement grâce à sa victoire 1-0 sur l'Asie d'Abengourou. La saignée continue pour le CW Sport, champion sortant, qui a été battu donc par la SOA. 3-0.
Drogba est dans l'actualité, il veut continuer avec les Blues.
Oui, revenu l'été dernier à Chelsea pour un contrat d'un an, Didier Drogba ne souhaite pas en rester là. Selon nos confrères de Foot Africa, l'attaquant ivoirien a déclaré à la presse anglaise qu'il ne disputait pas sa dernière saison. J'ai pris une décision et non, ce n'est pas ma dernière saison, a indiqué Didier Drogba au quotidien The Guardian.
Et basket professionnel ici aux États-Unis, quelques résultats?
Oui, dimanche soir, Brooklyn a été battu par Milwaukee 96-73. Défaite également de Cleveland face à Boston 78-117. Les Pistons de Détroit ont été battus par les Charlotte Bobcats 116-77. Belle victoire de Denver sur Sacramento, 122-111. Et OKC, Oklahoma City, donc, est tombé face à Indiana, 104-116. Washington, Chérubin, a gagné contre Atlanta, 108-99.
Il faut dire que Atlanta a pratiquement aligné des réservistes, mais quand même, une victoire, c'est une victoire.
Une victoire, c'est une victoire. Et pour terminer, Houston qui a battu New Orleans, 121-114.
Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge et Chérubin Dorsil, en votre compagnie, place à présent au dossier du jour.
Deux jours après le décès de l'ancienne présidente de transition gabonaise, Rose Francine Rogombe, les Gabonais font à présent le deuil de l'opposant André Mbaobam, secrétaire exécutif de l'Union nationale. C'est le parti qui a annoncé sa mort dimanche. La nouvelle a suscité la colère de ses partisans à Libreville qui ont incendié les voitures et les bâtiments, notamment l'ambassade du Bénin, selon l'AFP. M. Mbaobam avait contesté la victoire d'Ali Bongo en 2009 et s'était proclamé président de la République en 2011. Son parti avait alors été dissous. Nathalie Barge, vous avez joint Zachary Miboto. Nous rappelons qu'il est président de l'Union nationale, tout juste réhabilité en février dernier.
Nous sommes mobilisés dans l'unité, dans la solidarité, dans la compréhension pour naturellement pleurer André Mbaobam. Pour le moment, le programme n'est pas encore établi et il se fera donc les jours prochains.
Il y a eu des troubles dimanche à Libreville. Alors que s'est-il passé exactement et pourquoi ces violences ?
Ce sont des Gabonaises et Gabonais. Nous ne pouvons pas savoir qui a fait ceci ou qui c'est qui a fait cela. Toute accusation de l'opposition, de l'Union nationale est absolument infondée parce que nous, moi je ne peux pas vous dire que c'est tel ou tel parce que les gens, c'est des initiatives tout à fait privées qui ont été prises et pour lesquelles nous n'étions absolument au courant de rien du tout.
Pourquoi certaines personnes disent que M. André Mbaobam ne serait pas mort de mort naturelle ?
M. André Mbaobam, de son vivant, a dit dans quelle situation il était, pourquoi et comment il était tombé malade. Et ce n'est pas la peine donc de pouvoir dire maintenant le contraire après sa mort, ce n'est pas conséquent. Donc, lorsque nous avons appris la nouvelle de sa mort, nous nous sommes d'abord réunis au niveau du bureau national pour arrêter un certain nombre de mesures. Et puis ensuite, nous nous sommes transportés dans la famille et nous irons régulièrement rendre visite à la famille et organiser des veillées.
Rose Francine Rogombe est décédée également, il n'y a pas longtemps, vendredi dernier, le 10. Bien qu'elle ne soit pas de l'opposition, vous avez un mot à dire sur cette dame ?
Je la connaissais très bien. Nous avons été à l'époque au niveau du Parti démocratique gabonais parce que vous savez que j'ai démissionné en 2001. Là aussi, nous la pleurons, moi personnellement. C'est une nouvelle aussi qui m'a affligé et je présente mes condoléances les plus aimées à sa famille.
Est-ce que vous auriez un mot à ajouter sur la situation dans votre pays ?
Mais la situation dans notre pays, mais vous le savez, elle est mauvaise. Sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan institutionnel, elle est mauvaise. Et c'est pour ça que nous nous battons pour que arrive le changement dans ce pays. Nous nous battons dans ce cadre-là, au niveau de l'Union nationale, comme au niveau du Front de l'opposition pour l'alternance, parce que nous voulons absolument que dans ce pays, il y ait l'alternance.
Zachary Miboto, président de l'Union nationale au Gabon.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Élection régionale au Nigeria. Le parti du nouveau président Muhammadu Buhari l'a emporté au niveau des gouverneurs, confirmant la sanction contre son prédécesseur Goodluck Jonathan, battu à la présidentielle une semaine plus tôt. Pour une analyse des résultats de ces élections, Eddie Isango a joint un professeur de sciences politiques et de relations internationales à l'université de Zaria au Nigeria, Urdu Ayuba.
Les résultats ont été bien reçus puisque tout est calme. Le parti du candidat qui a gagné aux élections le 28, c'est-à-dire le président, le général Buhari, c'est son parti qui a gagné la plupart des États, surtout au nord et puis à l'ouest du pays, quoi.
Mais maintenant, qu'est-ce que signifient ces résultats par rapport à la cartographie politique du Nigeria? Quel sens donner à ces résultats?
Oui, là, le pays est divisé maintenant en, disons, en deux partis politiques, quoi. L'ancien parti politique, c'est-à-dire l'ancien gouvernement, contrôle les États du Sud. Et puis le nouveau parti gagnant contrôle l'ouest du pays et le nord. Le sud est contrôlé par le parti PDP du président Jonathan, et l'ouest du Nigeria et le nord du Nigeria sont contrôlés par le parti APC du général Buhari.
Vous parlez de la continuité des résultats de l'élection du 28 mars. Est-ce que vous pensez que les résultats des élections générales permettront aux Nigérians de vivre en paix? Est-ce que ces résultats amèneront plus de paix dans le pays ou plus de confrontation? On sait qu'il y a d'une part les musulmans, et les chrétiens et les autres.
Cette élection est significative parce que vous savez ce qui s'est passé. Il y a eu l'utilisation de ce qu'on appelle ici carte vida, les lecteurs de cartes d'électeurs. Cela a minimisé les fraudes. Et puisque les gens étaient conscients que leur vote va compter, ils sont restés calmes. Ce que les gens ont mis dans les urnes, c'est ce qui est sorti. On avait des conflits avant parce qu'il y a eu des manipulations. Ce que les gens mettaient dans les urnes, ce n'est pas ce qui sortait. C'est pourquoi les gens réagissaient violemment. Les élections au Nigeria ne seront plus violentes.
Peut-on dire que c'est confirmé que Goodluck Jonathan a été sanctionné après les résultats confirmés par les élections régionales?
Oui, oui, tout à fait. Il a été sanctionné par sa politique, surtout à propos, par rapport au problème de Boko Haram et puis aussi à les problèmes économiques.
Est-ce que vous pensez que ce climat qui s'instaure va rester après et au-delà des élections?
S'il n'y a pas d'élections, les gens vivent en paix. À part le problème de Boko Haram, on sait. Là, même les musulmans sont victimes de Boko Haram.
Ourdou Ayouba est professeur de sciences politiques à Zaria, au Nigeria.
Dans Washington Forum ce jeudi 16 avril, le Mali, chronique d'une rébellion déclarée. Qui sont les principaux acteurs de ce conflit? Quels enjeux? Quelles solutions? Et surtout, quel avenir pour un pays tiraillé par des luttes ancestrales? Le dialogue est engagé, mais le gouvernement malien et la coordination des mouvements de l'Azawad tardent à se mettre d'accord. Dites-nous ce que vous en pensez sur notre page Facebook. Je vous donne rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel.
Un rendez-vous, bien sûr, avec Saloua Jafari. L'Algérie a convoqué les parties maliennes pour de nouvelles discussions dans l'espoir de ramener la paix dans le nord du Mali. Le gouvernement de Bamako a déjà paraffé l'accord de paix et de réconciliation le 1er mars. Un compromis sera-t-il trouvé à Alger? Idriss Fall s'est entretenu avec le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop.
Le gouvernement du Mali a déjà paraffé cet accord. La plateforme qui est constituée aussi des mouvements d'autodéfense ont également paraffé. Il restait certainement la coordination des mouvements du Nord qui n'avait pas encore paraffé le document. Nous avons eu l'information officielle de la médiation menée par l'Algérie que ce sera fait le 15. Si c'est le cas, le gouvernement du Mali entend être témoin de cette cérémonie de paraff par la coordination qui va maintenant clore l'étape de paraff et nous allons évoluer maintenant vers la signature du document qui est vraiment l'étape la plus
cruciale. Vous avez dit coordination des mouvements du Nord, pas coordination des mouvements de l'Azawad?
Bon, vous savez, c'est la coordination des mouvements du Nord du Mali qui intègre le MNLA, le ACIA et le MAA.
Maintenant, qu'est-ce que vous devez signer? Ce que vous avez paraffé, le contenu, c'est quoi?
L'accord lui-même est assez détaillé. Sur le plan politique, il est proposé d'aller vers une libre administration des collectivités avec l'élection des organes élus au niveau des régions et au niveau des collectivités comme la commune et comme le CERN. Mais il y a aussi une dévolution importante de pouvoir à ce niveau. Il est envisagé sur le plan sécuritaire la création d'une police municipale, mais aussi de faire en sorte que l'armée qui sera reconstituée puisse davantage refléter la diversité du pays, mais avec la compréhension que ça sera une armée unique.
C'est-à-dire intégrer les anciens rebelles au sein de l'armée?
Bon, ça fait partie des options, parce qu'il y aura une commission de DDR, désarmement, démobilisation, réinsertion, qui va décider qui va atterrir dans l'armée suivant un certain nombre de critères de screening. ligne de vetting qui se mettra en place pour pouvoir accueillir certains anciens combattants comme d'autres qui ont déserté un moment les forces armées, mais aussi d'autres peuvent finir dans la vie civile. Il est clair que l'accord aussi respecte les principes fondamentaux qui ont été édictés par le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta dès l'entame de ce processus. En clair, le respect de l'unité du Mali, le respect de l'intégrité territoriale du Mali, mais aussi du caractère laïque et républicain du Mali.
Justement, à ce niveau-là, supposons Kidal, on doit élire un gouverneur. Est-ce que ce n'est pas donner aux populations de Kidal le droit d'élire un gouverneur Touareg?
Vous savez, le Mali n'a absolument aucun problème à ce qu'un Touareg occupe une responsabilité, fût-elle au niveau de la présidence de la République du Mali. Il vous souviendra que le Mali a été le premier pays de la région à avoir un premier ministre Touareg. Mais ce qui est en question, c'est que toutes les régions du Mali désormais auront des conseils régionaux qui seront élus au suffrage universel direct.
Voilà le chef de la diplomatie malienne Abdoulaye Diop, de passage à Washington.
Ici aux États-Unis, la liste des candidats à l'investiture des deux grands partis, le Parti démocrate et le Parti républicain, s'allonge après la confirmation hier de la candidature d'Hillary Clinton. C'est aujourd'hui Marco Rubio qui entre dans l'arène. Le jeune sénateur de la Floride a 43 ans. Il est fils d'immigrants cubains. Et pour l'annonce de sa candidature à la présidentielle de 2016, il a choisi la Freedom Tower de Miami, l'endroit où les autorités ont enregistré le premier groupe de Cubains fuyant le régime de Fidel Castro dans les années 60. Une annonce prévue dans les prochaines heures. Marco Rubio est le troisième républicain à se porter candidat après ses collègues sénateurs Ted Cruz du Texas et Rand Paul du Kentucky et le gouverneur Scott Walker du Wisconsin et l'ancien gouverneur Jeb Bush de la Floride pourraient en faire, n'est-ce pas, de même dans les prochains jours, n'est-ce pas Gabi?
Oui, il faut dire que dans le camp des démocrates, Nathalie, Hillary Clinton ne devrait pas avoir trop de difficultés à obtenir ce que Barack Obama lui a ravi en 2008. Elle ne fait face, du moins pour le moment, à aucun prétendant sérieux. Mais elle a beaucoup à faire, nous dit l'ambassadeur Herman Cohen, si elle veut devenir la première femme chef d'État aux États-Unis.
D'abord, il ne faut pas qu'elle soit le candidat de son mari, l'ancien président. Il faut qu'elle soit un président à elle. Deuxièmement, il ne faut pas qu'elle échappe trop d'Obama, parce que quand même, il y a beaucoup de gens qui aiment Obama, surtout pour l'assurance santé et pour d'autres projets. Et troisièmement, il ne faut pas qu'elle soit candidate féminine. Il faut qu'elle soit un candidat tout court. Elle ne veut pas être le candidat inévitable. Il faut qu'elle ait un débat. C'est plus important pour que les Américains la connaissent mieux. Surtout les jeunes qui sont nés entre 1990 et 2005. Donc, il faut qu'il y ait un débat chez les démocrates. S'il n'y a pas de débat, ce sera difficile. Mais je vois déjà certains candidats qui sont prêts à s'annoncer. Par exemple, l'ancien gouverneur de Maryland, M. O'Malley, qui est très crédible. Donc, j'espère qu'il va entrer dans la course.
Des gens ont parlé à un certain moment de la sénatrice Elizabeth Warren.
Oui, elle a dit non 100 fois. Et je crois qu'elle ne veut pas attaquer Mme Clinton. Elle sait que dans son cœur, Mme Clinton n'est pas tellement différente qu'elle dans la politique pour aider la classe moyenne.
Et parlant d'attaquer Mme Clinton, il y aura beaucoup de républicains en face pour le faire.
Oh oui, ils ont déjà commencé. Il y a Jeb Bush, fils président Bush, père. Mais les républicains ne peuvent qu'à gagner en attaquant Mme Clinton. Il faut qu'ils aient un programme à eux. Et pour le moment, je n'ai pas vu un programme qui soit unique aux républicains.
Vous êtes républicain, ambassadeur Cohen?
Oui, bien sûr. Donc, je me fais des soucis pour mon parti.
C'est l'analyste politique et ancien sous-secrétaire d'État américain Herman Cohen.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. vos commentaires sur notre page Facebook Roger Moutou, la voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Cette édition touche à sa fin. La mise en onde a été assurée par Georges Léonard Sagnot, accompagné de Tweet à la technique.
Et ainsi va Le Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com. Avec vous, c'était Nathalie Barge et Chérubin Dorcil. À très bientôt.